Radio Kapi.
C'est parti pour la 8e édition du festival Amani à Goma. Deuxième jour ce samedi. Pendant 3 jours, les habitants de Goma et ses environs vont chanter la paix. Un contexte particulier pour cette édition, le coronavirus et l'état de siège au Nord Kivu. Nord Kivu toujours, la société civile de Kamandi demande que les paysans soient autorisés à récolter les produits de leurs champs à Ndouali, contrôlés par l'ICCN. Elle dit craindre que la population soit confrontée à la famine. En réponse, l'administrateur adjoint de Lubero assure que la situation est en examen. Et puis, dans l'ex-province orientale, l'Office national d'hydraulique rurale n'essaie plus fournir de l'eau potable aux populations de ce coin du pays. Cela dure depuis 2014, en cause notamment la vétusté du matériel. Pour en parler, nous recevons le coordonnateur provincial de cet office dans la Tchopo. Madame, Messieurs, bonjour. La 8e édition du festival Amani a commencé hier à Goma. Pendant 3 jours, les habitants de Goma et ses environs ont rendez-vous au village Ioussi, à l'ouest de Goma, pour chanter la paix, une occasion pour la population et les participants de rappeler leur désir de vivre une vraie paix. Cette édition se tient dans un contexte particulier, celui de la pandémie de Covid-19 et de l'état de siège au Nord Kivu. Mais quelle est la valeur de cette édition pour la population de Goma? Réponse dans ce reportage de Rose. Zali Zawadi.
Comme aux éditions passées, les festivaliers ont droit à la bonne ambiance sur les sites du festival, à l'exemple de cette démonstration des Afans des Redis de Bukavu. Après tout ce que la population de Goma a traversé ces derniers mois, cette édition du festival Amani est la cure qu'il fallait à la ville pour pouvoir un peu respirer, estime Robert King, l'un des grands artistes de Goma.
Écoutez, Goma a des réalités qui sont très dynamiques, malheureusement dans le négatif. Si c'est pas cette résilience en fait, cette combinaison des forces constructives, artistiques, collatrice même, je pourrais dire, le tissu social aurait déjà pété un câble, entre guillemets. Alors, c'est là qu'on sent que ce n'est pas vraiment une panacée, mais c'est la cure qu'il nous fallait pour que Goma respire encore, pour que Goma pense, danse et change encore sa façon de penser par l'art.
Sur les sites du festival, plusieurs activités de sensibilisation sur la vaccination et le respect des gestes barrières pour lutter contre les Covid-19 ont lieu. Les entrepreneurs exposent leurs produits dans les différents stands. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Le festival Amani est un outil pour le travail de consolidation de la paix. Il faut faire en sorte qu'il puisse continuer. C'est ce que pense la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Madame Bintou Keïta. Elle l'a dit hier à Goma sur le site même du festival Amani. La chef de la MONUSCO est au micro de Rosalie Zawadi.
La présence physique de plusieurs personnalités, différents groupes qui se sont déplacés de différents coins du pays pour converger à Goma. Pour moi, c'est une excellente chose. Il y a des gens qui sont venus de l'extérieur aussi pour participer. C'est très bien parce que ça veut dire que malgré le contexte de la pandémie du Covid-19, il y a eu des précautions qui ont été prises pour que le festival puisse se tenir. Et pour nous, ma présence physique ici avec les collaborateurs, c'est de montrer que dans le contexte du travail de la consolidation de la paix, on a besoin aussi d'avoir pas seulement toujours des discours sur les aspects les plus sombres du travail sur la paix, mais aussi de valoriser ce qui marche et ce qui peut être un vivier d'amélioration et de renforcement de consolidation de la paix. C'est la raison de ma présence, c'est pour dire que le festival Amani, comme d'autres, ce sont des outils importants et il faut les valoriser et faire en sorte qu'ils puissent continuer à vivre.
Rendons-nous au Sud Kivu. 33 miliciens dont les Mai Mai et leurs alliés rebelles burundais du FNL et de Red Tabara sont morts dans des combats contre les FARDC depuis 3 jours. Ces affrontements se sont déroulés à Luako 1 et Luako 2 dans le groupement de Katoniera, les collines au nord de la ville d'Uvira. D'après le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 au sud du Sud-Kivu, trois leaders parmi ces miliciens sont tombés sur le champ de bataille, à savoir Gadi, Lunyuki et Muyola. Plusieurs blessés ont aussi été enregistrés. Le récit de Fiston Goma Mayabala.
Cette opération qualifiée de grande envergure par le FRDC et dirigée par le commandant secteur opérationnel Sokola 2 Sud-Sud se poursuit en profondeur. Le général de brigade Ramazan Ifundi, relayé par son porte-parole, souligne que la situation est sous le contrôle de l'armée. Il appelle la population civile au calme et lui demande de se désolidariser de ses ennemis de la paix qui sèment terreur et désolation. Pour l'instant, le porte-parole de l'armée, le lieutenant Marc Elongo, ne fournit aucune explication sur les circonstances dans lesquelles ces miliciens ont été tués, ni les bilans du côté de l'armée régulière dans ces combats dits de grande envergure. Pour rappel, ces groupes armés Mai Mai et leurs alliés burundais s'étaient retirés vers Kisanga, Katoniera et Kazimwe, surplombant les villages de Kawizi et Rutemba au mois de janvier dernier. Après des affrontements contre les troupes des FRDC sur les collines surplombant la ville d'Uvira, des affrontements qui avaient fait 2 morts parmi les officiers de l'armée, dont le major Ekofo. Par ailleurs, la société civile Akiliba signale un déplacement massif des populations civiles de ces villages vers Kawizi et Kiliba, ainsi que dans la ville d'Uvira fuyant ces combats. D'Uvira, Fiston Goma Mayabala, Radio Kapi.
Je vous le disais en titre, dans le territoire de Lubero au nord Kivu, la société civile de Kamandi demande que les paysans soient autorisés à récolter les produits de leurs champs dans la zone de Ndwali, contrôlée par l'ICCN, sur la côte ouest du lac Édouard au sud de Lubero. Sami Sakumi, président de la société civile de Kamandi, précise qu'il s'agit du manioc et du maïs dont la période de récolte devra commencer dans 1 mois. L'administrateur adjoint de Lubero, le commissaire supérieur principal Joseph Komaya, indique que la situation est en examen. Reportage de Florida Kahambu rendu par Grévis Salomo.
Ce plaidoyer fait suite à la fin du moratoire accordé par l'ICCN aux populations de cette partie du territoire. Le moratoire avait été sollicité par l'administrateur du territoire en faveur des populations locales. La société civile de Kamandi dit craindre que la population ne soit confrontée à la famine dans les jours qui viennent si on ne l'autorise pas à accéder à son champ. Il y a quelques semaines, au mois de décembre, une récolte collective avait été autorisée grâce au plaidoyer de l'administrateur du territoire de Lubero auprès de l'ICCN. Et deuxième moratoire avait été ainsi accordé jusqu'à fin janvier. Sami Sakumi explique que plusieurs cultures dont la saison de récolte approche sont inaccessibles depuis la fin du dit moratoire, notamment les maniocs et les maïs. Nous avons tenté en vain de contacter les communicateurs de l'ICCN pour avoir sa réaction sans succès. De son côté, l'administrateur adjoint du territoire de Lubero, le commissaire supérieur principal Joseph Komaya, indique que plaidoyer pour accéder aux récoltes est à l'étude. D'après lui, une équipe technique a été récemment envoyée sur terrain pour évaluer la période des récoltes. Boutembo, Gravis Salomon, Radio Okapi.
Retour au sud Kivu. Le trafic aérien reprend entre le territoire de Shabunda et les villes de Goma et Bukavu. C'est après plusieurs jours d'interruption suite au conflit entre la population locale et les compagnies aériennes qui exploitent ce trajet. Le conflit était autour de la hausse exagérée de prix des billets d'avion et des frais d'embarquement de marchandises. Reportage de Emmanuel Elamiji Wakabedi.
C'est depuis le début de cette semaine que le mouvement aérien a repris de Goma à Shabunda et de Bukavu à Shabunda. Un compromis venait d'être trouvé entre les compagnies aériennes et les commerçants sous la médiation du gouvernement provincial. Toutefois, le prix de billets passagers revient toujours à plus de $250 au lieu de $100 comme convenu. Monsieur Kachomba Nabil Salé, administrateur des territoires de Shabunda.
Exactement, les vols ont repris et la vie a repris à Shabunda. Les prix des marchandises se sont arrêtés à 1,5 billets d'avion et tantôt à $250 Bukavu Shabunda. Ce sont les marchandises diverses, les poissons, les haricots, les sels, la bière, surtout les carburants.
Cette reprise de vol sur Shabunda impacte déjà sur quelques produits comme le carburant et autres. Un litre d'essence revient aujourd'hui à 6 000 francs congolais au lieu de 12 000 francs congolais le mois passé, un sachet de sel à 1 500 francs au lieu de 3 000 francs congolais et une bouteille de bière à 7 000 francs au lieu de 12 000 francs congolais. Le territoire de Shabunda est enclavé et coupé du reste de la province. Aucune voie routière ne relie Shabunda à la ville de Bukavu. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
À Mwanda, au Congo central, hier, c'était le troisième jour de la grève déclenchée par les agents des sociétés de sous-traitance de la société pétrolière Perenco. Ils réclament la suppression des écarts de salaire entre eux et les effectifs de la Perenco. Le gouverneur intérimaire et ministre provincial des hydrocarbures ont fait le déplacement de Mwanda pour tenter d'apaiser la crise. La production à la Perenco en arrêt depuis mardi a repris vendredi après-midi. L'électricité coupée à la cité de Mwanda durant trois jours a aussi été rétabli malgré la persistance de la grève. Nana Plurish Mambou, reportage.
À travers ce mouvement de grève amorcé depuis le mardi dernier, les agents sous-traitants à la société pétrolière Perenco, notamment ceux des sociétés de construction et de gestion des ressources humaines en sigle Socoger, ainsi que ceux de New Escoquin, revendiquent la suppression des écarts sur l'indemnité des vies chères IVC et l'augmentation des frais de logement. En ce qui concerne l'indemnité des vies chères IVC, les sous-traitants touchent 180$ alors que les employés engagés de la Perenco ont mensuellement 480$. La rencontre de ces jours entre le gouverneur intérimaire, les représentants de la Perenco l'employeur et les délégués syndicaux de ces agents n'a abouti qu'à la reprise de la production du pétrole en onshore et en offshore à la Perenco en arrêt depuis deux jours, ainsi qu'au rétablissement du courant de la SNEL et de la ligne Perenco de Kinkazi, coupée par ses travailleurs pour faire entendre leur voix. Pour lever la grève, ces agents de Socoger et ceux de New Escoquin disent attendre l'arrivée des autorités de Kinshasa pour qu'une solution définitive soit trouvée. L'application de la décision de la ministre du Travail et Prévoyance sociale obligeant toutes les sociétés utilisatrices de main-d'œuvre de payer directement les travailleurs qu'elles sous-traitent pour éviter les zones salariales. Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Du côté du Bazouélé, les enseignants du territoire de Poco observent une grève depuis bientôt deux semaines. En cause, le non-paiement de leur salaire de deux mois, soit décembre 2021 et janvier 2022. Honoré Doussa, membre du syndicat des enseignants de cette contrée, parle des conséquences inéluctables que cela pourrait entraîner à la suite de la perturbation du calendrier scolaire, si on y prend garde. Honoré Doussa, joint par Jacques Moukonkolé.
Dans toutes les tendues de la République démocratique du Congo, on a payé les enseignants. On se pose mille et une questions, comment que tout simplement un territoire parmi les 145 de la République démocratique du Congo ne puisse pas alimenter la banque pour leur paye. Ça a des conséquences puisque vous voyez, l'année scolaire c'est 260 jours et ils ont effectué seulement 67 jours. En termes de pourcentage, c'est 30%. Il nous reste encore 153 jours à effectuer, c'est 70%. Et l'année dernière, il y a nos finalistes dans tous les tendus de notre territoire. L'examen d'État était nul. Alors, cette année encore, c'est-à-dire, c'est une perte pour nous pour que nous puissions continuer à envoyer les enfants à l'école, puisque l'année dernière, il y a eu résultat nul. Toutes les tendus, l'option pédagogique, commerciale, ainsi de suite, l'informatique et on a reçu les résultats de l'examen d'État.
Contactés récemment lorsque les enseignants du territoire de Dungu sont allés en grève pour le même motif, l'abbé directeur de la Caritas a déclaré que le retard de paiement enregistré est lié au manque d'approvisionnement de la Banque centrale du Congo à Isiro. Pendant ce temps, l'intersyndicale des enseignants de la sous-division de l'EPST Beni salue la décision du gouvernement de matérialiser sa volonté de répondre à ses préoccupations à travers le recensement des enseignants, nouvelles unités sur toute l'étendue de la RDC. Au total, 160 000 enseignants vont bénéficier de la paix à partir du mois d'avril. Cet alignement est le fruit, selon les enseignants, de leurs différentes revendications pour réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est ce que dit Jérémy Kasereka Kinyangwa, un des syndicalistes dans la sous-division de l'EPST Beni. Il est au micro de Guylaine Kassassia.
Apparemment, les pourparlers vont produire des fruits. Nous avons déjà les travaux de synthèse. Et là, on nous dit maintenant de recenser 160 000 enseignants, soit 80 000 à l'école primaire et 80 000 à l'école secondaire, qui vont entrer dans la paye à partir d'avril. Et nous, comme syndicalistes, nous avons été associés à ce travail-là. Et nous sommes contents du fait que le travail s'est bien déroulé. Nous sommes aussi contents du fait que le ministère est en train de réclamer le dossier des enseignants à prévision de la paye d'avril. C'est que notre grève grève n'a pas accouché d'une souris. Nous félicitons aussi le gouvernement pour les barèmes qui étaient adoptés à l'issue de ces travaux-là. C'est un barème consensuel, donc entre les bas syndicats et la partie gouvernementale. Et lorsque vous lisez ces barèmes, il y a quand même des propositions alléchantes et des nouveautés par rapport à la prise à charge salariale des enseignants. Donc si ceux qui nous représentent au Parlement peuvent exercer une pression sur les gouvernements pour que cette fois-ci, ces barèmes ne soient plus à l'heure comme les autres barèmes. On nous a parlé des Mboudi, des Bouibois, mais il faut cette fois-ci que ces barèmes soient applicables.
Actualité Afrique Monde.
L'annonce était attendue et prend effet immédiatement. L'expulsion de l'ambassadeur de France et la demande du départ du contingent danois ont poussé l'Union européenne à tenir sa promesse d'emboîter le pas aux sanctions prises il y a un mois par la CEDEAO. Les sanctions prises vendredi à l'encontre des 5 responsables maliens sont d'une part financières, leurs avoirs détenus dans l'Union européenne sont gelés et tout résident européen a interdiction de mettre des fonds à leur disposition. Les 5 sanctionnés se voient également interdits de poser le pied sur le territoire européen. Le plus haut responsable sanctionné dans le gouvernement malien est le Premier ministre Choguel Maïga.
L'invité.
Nous sommes dans l'ex-province orientale. Depuis 2014, l'Office national d'hydraulique rurale ne réalise plus sa mission, celle de fournir de l'eau potable aux populations rurales des territoires de cette partie du pays. En cause, la vétusté de son matériel ainsi que le manque des subsides de la part du gouvernement. Pour en savoir plus, le coordonnateur provincial de cet office dans la Tchopo, Gaspard Kaké, s'entretient à ce sujet avec Jacques Moukonkolé.
Gaspard Kaké, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous êtes le coordonnateur de l'Office de l'hydraulique rurale dans l'ex-province orientale. Quel état des lieux pouvez-vous faire de votre service aujourd'hui?
Merci pour cette question. Par rapport au matériel, nous disposons 4 ateliers de forage, dont un atelier se trouve à Yangambi, qui est en panne. Un autre se trouve au niveau de Aketi, qui est aussi tombé en panne. Et puis, un autre se trouve à Bounia, c'est aussi à panne. Puis,
et dans la ville de Kisangani ou dans la Tchopo?
Il y a une autre qui se trouve devant le bureau. Celui-là, ça demande un entretien pour faire le travail.
Monsieur le coordonnateur, quelle est la mission que l'État congolais vous a confiée?
Merci pour cette question, monsieur le journaliste. Notre mission, c'est de fournir de l'eau potable aux habitants des campagnes et des périphéries des centres urbains en qualité et en quantité suffisante. Contribuer à la lutte préventive contre les maladies d'origine hydrique, promouvoir le regroupement des populations, contribuer au développement agricole par l'apport artificiel de l'eau au kirti et au pâturage, assurer aussi la desserte en eau aux animaux d'élevage.
Monsieur le cordon, à vous entendre parler, il y a quelques instants, ce matériel est actuellement en panne et pourtant votre mission est de fournir de l'eau potable à la population rurale. Comment, dans ce contexte, vous pouvez réaliser vraiment votre mission?
Pour le moment, c'est difficile parce que on n'a pas le frais de fonctionnement pour réparer ces machines-là. Par exemple, la machine qui se trouve à Yangambi, on avait sorti une pièce qu'on a envoyée à Kinshasa jusqu'à présent, ce n'est pas encore rentré ici. Donc, il n'y a pas moyen de réparer ces machines qui sont tombées panne.
Entre-temps, cette population rurale est livrée à son triste sort. Elle est obligée de consommer de l'eau qui n'est pas potable et elle est exposée à des maladies d'origine hydrique.
Mais c'est le journaliste, c'est comme je disais tout à l'heure que notre service n'est pas un service d'assiette, mais c'est un service consommateur. Donc, le gouvernement provincial ou soit national doit mettre des moyens pour rendre des services aux communautés rurales. Alors, pour le moment, on n'a pas encore reçu le financement pour faire ce travail-là.
Parlons des ressources humaines. Est-ce que vous avez un personnel qualifié, un personnel encore actif qui peut vous permettre, n'est-ce pas, de réaliser votre mission?
Vraiment, les services disposent de l'expertise adéquate. Nous avons le personnel qualifié. Les ingénieurs, les techniciens qui sont là dans le service, s'il y a les moyens, vont faire le travail. Mais la seule difficulté est que ces agents-là ne sont pas mécanisés. Ils ont les numéros matriqués, mais ils ne sont pas mécanisés. Mais ils sont là, ils viennent toujours au service. S'il y a les moyens, on va faire le travail.
Cordon, on se rend compte que vous travaillez dans des conditions vraiment difficiles. Et selon vous, d'où viendraient les saluts de votre fils?
Merci, monsieur le journaliste. Pour le moment, ce que nous entendons comme salut, c'est seulement la promesse de 145 territoires, parce que les activités qui vont se mener dans les territoires, nous sommes aussi concernés, surtout dans notre service de développement rural. Il y a le pour fournir de l'eau potable à la population et puis les routes des déserts agricoles. Donc nous sommes concernés. Nous entendons ça à main, à bras ouverts.
Compte tenu des difficultés que vous éprouvez, que vous avez évoquées tantôt, avez-vous fait un rapport à votre hiérarchie?
Oui, chaque année, nous faisons des rapports annuels. Même au milieu de quoi de l'année, on fait des rapports au niveau du gouvernement provincial, tant qu'au niveau du gouvernement national.
Monsieur Le Cordon, n'avez-vous pas de partenaire à qui vous pouvez soumettre aussi vos préoccupations, vos doléances, pour voir dans quelle mesure ils peuvent vous assister?
Jusqu'à présent, les partenaires permanents, c'est l'UNICEF, qui avait commencé à un moment donné de nous soutenir à faire des descentes sur le terrain pour suivre les activités qui se font sur le terrain. Mais à un moment donné aussi, il a coupé, parce qu'ils ont dit que cette année ici, même l'année écoulée, donc il n'y a pas de fonds qui sont affectés au niveau de la province orientale. Donc on a travaillé avec eux en 2017 et 2018 pendant des années.
Monsieur Le Cordon, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité, le coordonnateur de l'Office national d'hydraulique rurale dans l'ex-province orientale, s'entretenait avec Jacques Moukonkolé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.